Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez encore appris des choses sur vous ou sur les autres. Car chaque jour est une découverte, pour peu qu'on veuille bien se remettre en question. Pour peu qu'on veuille bien accepter aussi que chacun a sa vérité. Car on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les voit telles qu'on est. Et quand on comprend ça, alors on fait un grand pas vers la tolérance. Comprendre et accepter que chacun a sa carte du monde, chacun a sa façon de voir et de comprendre, ou pas, en fonction de ce qu'il a vécu. Ce vécu, ces expériences de vie, c'est précisément ce que nous partageons chaque soir sur cette libre antenne. Alors ce soir encore, venez me parler de vous, de votre vie. Appelez le 3921 et retrouvons-nous sur cette antenne que nous partageons jusqu'à 1h du matin. 3921 donc pour nous joindre directement par téléphone. Sinon, je vous rappelle que pour participer à nos échanges par SMS, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Cindy et Nicolas sont au standard et Benoît à la réalisation. Ça veut dire que toute l'équipe est prête à vous accueillir. À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel de Romy. Bonsoir à vous, Romy.
Oui, bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue.
Merci de prendre mon appel.
Merci à vous d'avoir patienté, ça a été un petit peu plus long que prévu ce soir, mais bon, voilà.
Oui, non mais c'est vendredi.
Exactement, alors qu'est-ce qui vous amène, Romy ?
Alors, en fait, depuis 2017, je n'ai que des échecs professionnels.
Ah.
Ouais, alors que pendant 14 ans, j'étais un auxiliaire de justice. Donc, je ne donnerai pas la profession. Hein. Mmh. Ça s'est très bien passé. Et j'insiste sur le mot un auxiliaire de justice. Cet auxiliaire de justice est parti à la retraite. Il a eu une successeur. Et cette successeur m'a virée. Donc elle m'a obligée à signer une rupture conventionnelle.
Pour quelle raison d'après vous ?
Bah parce qu'en fait, elle voulait prendre une stagiaire qui lui coûtait moins cher que quelqu'un qui avait de l'expérience.
Ah, d'accord. Il n'y avait que ça. Il n'y avait pas d'une sorte de rivalité. Il n'y avait pas un autre problème.
Je ne me suis pas vraiment entendue avec elle dès le départ.
Mmh. Enfin, ça ne passait pas, quoi.
Non, ça ne passait pas. Bon. Donc, j'ai signé contrainte et forcée cette rupture conventionnelle. Et puis, ce qui m'a fait vraiment très mal, c'est que quand le jour où je suis allée rendre les clés du bureau, ma place était déjà reprise par cette fameuse stagiaire.
C'est un peu sec, ça, oui, effectivement.
Ouais, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal au cœur. Enfin, bon, bref.
Depuis combien de temps étiez-vous à ce poste?
14 ans.
14 ans, oui, effectivement, c'est assez rude.
Oui, c'est assez rude. Bon. Ça, elle a voulu un peu se rattraper en me retrouvant un job toujours dans le milieu judiciaire. Mais ça ne me plaisait pas plus que ça parce que c'était un travail assez rébarbatif par rapport à ce que j'avais fait pendant 14 ans. Et donc, j'ai pris. Bon, il est hors de question de ne pas travailler. Et puis, c'était de mars 2018 à novembre 2018. J'ai été débauchée par un nouvel auxiliaire de justice. Donc, j'ai un peu réfléchi parce que ça faisait quand même relativement loin de chez moi. Mais bon, je retrouvais en fait le poste que j'avais occupé pendant 14 ans.
Donc c'était plus intéressant.
Ah ben oui, oui, oui.
Et puis surtout, pour moi, je trouve un peu curieux quand même que cette femme vous ait virée, comme vous dites, et en même temps qu'elle vous ait trouvé quelque chose. C'est paradoxal comme attitude.
Ouais,
et je pense que d'aller ailleurs, c'est aussi une façon de couper complètement les liens avec elle, quoi.
Oui. Oui, oui, oui.
En dehors du fait que ça ne vous intéressait pas tellement ce qu'elle vous avait proposé.
Non, mais bon, elle s'en doutait bien que ça ne m'intéresserait pas. Mais bon, je me suis dit, allez hop, tu prends.
Donc là, une autre offre, mais elle a une distance géographique qui pose question.
Voilà, mais bon, j'ai pris.
Ouais.
J'ai pris. Donc, de novembre 2018 à décembre 2020. Oui, parce que le Covid, c'était en 2020, hein, c'est ça. Oui.
Mmh.
Donc, j'ai travaillé chez cette auxiliaire de justice qui m'a licenciée pour motif économique lié au Covid.
Ah, mais ça, c'est encore autre chose, oui. Oui,
ouais, non, mais je vous dis, depuis 2017, c'est la galère.
C'est une accumulation, mais c'est pas le même contexte, là, quand même. Ça n'est pas une mise en cause personnelle.
Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non.
Pourquoi pour l'instant? Qu'est-ce qu'il y a qui...
Attendez.
Il y a quelque chose qui ne va pas, là, oui.
Ouais. Donc, 31 décembre 2020, je quitte cet auxiliaire de justice. Courant 2021, je retrouve un job. Donc, l'entretien en janvier 2021 pour un début février 2021. Et là, commencent les soucis. C'est-à-dire que j'ai travaillé, c'était un bureau qu'avec des femmes.
Mmh.
Et là, ça s'est assez mal passé. Je pense que j'ai été victime de trahison.
Mmh. Mais des femmes au même niveau que vous ou des supérieurs hiérarchiques?
Ben, tout.
Les deux?
Les deux. Les deux. Et donc là, la confiance en soi, elle est tombée, mais alors, d'un coup...
Quand vous dites trahi, c'est sur quel terrain, par exemple? Dans quelle situation?
On contrôlait tous mes faits et gestes, on contrôlait, et puis on rapportait les choses. C'est-à-dire que ça m'arrivait de partir tard, le soir, parce que voilà, j'essaye d'être consciencieuse dans mon boulot. Et ça a été les collègues qui était à côté de mon bureau, parce qu'on avait des bureaux individuels, allait rapporter que j'étais encore là, par exemple, à 18h. Donc, le lendemain matin, on venait me dire « Mais pourquoi vous êtes partie à 18h ? Fallait partir à l'heure, à 17h. Bah, »« Ben oui, mais vous m'avez donné quelque chose à la dernière minute qui était urgente. »
Oui, puis depuis quand c'est mal d'en faire trop, quoi? C'est curieux de reprocher à quelqu'un de travailler trop.
Oui, absolument. Absolument.
Mmh.
Et je ne demandais pas un centime de plus. Hein. Enfin, je veux dire, je faisais mon boulot.
Ouais.
L'urgence, voilà.
Donc, ça en dérangeait certains, si je comprends bien, quand même.
Tout à fait.
Mmh.
Alors que, bon, j'étais dans mon coin, je ne demandais rien à personne. C'était faire son boulot. Voilà. Pour s'avancer pour le lendemain matin.
Oui, puis chacun gère son temps comme il veut.
Pendant 14 ans, on ne m'a jamais reproché quoi que ce soit.
Oui.
Et là, on me dit, non, vous partez. Et puis alors, on me disait ça sur un ton, mais alors vraiment l'horreur. C'était vraiment... Il fallait encaisser. Il fallait vraiment encaisser. Et puis... En septembre 2021, pardon, oui, 21, excusez-moi, je suis un peu perturbée dans les dates. On m'a fait un reproche, mais alors là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est que Voilà, c'était un vendredi soir. Mmh. Et on m'a reproché encore une fois, mais alors sur un ton, mais là qui dépassait les bornes, comme quoi j'avais pas arrêté, que je devais partir, que.
Qui est on quand vous dites on me reprochait?
Alors là, c'était une supérieure hiérarchique.
D'accord, oui. Okay. Donc même au niveau supérieur, on vous reproche ça, ce qui est quand même très surprenant.
C'est surprenant quand même. Hein.
Bah oui, à la limite que des collègues se sentent mal parce qu'elles se comparent et se disent qu'elles vont peut-être être moins bien jugées que vous parce qu'elles restent moins longtemps, j'en sais rien, ça peut arriver des rivalités comme ça.
Mais qu'une
supérieure vous reproche ça, c'est vrai que ça paraît très, très curieux.
Ah mais alors sur un ton, et qui plus est, ça ne s'est pas passé en face à face, ça s'est passé par téléphone interne. Je me suis demandé.
C'est-à-dire téléphone interne?
Eh bien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue me voir directement.
Ah oui, mais il n'y avait que vous au bout du fil quand même, ce n'était pas un collectif.
Ce n'était pas du collectif. Mais elle m'a insultée.
À ce point-là.
Parce que j'étais. Ah oui, c'était l'horreur.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Que j'avais pas à rester aussi tard, que je pouvais attendre, ça pouvait attendre le lundi, que. Enfin, c'était des reproches de trop travailler, en fait.
Mais j'entends pas d'insultes, là, dans ce que vous me dites.
C'était limite harcèlement.
D'accord. En tout cas, vous l'avez vécu comme ça. Ouais.
Ouais. Mmh. Et je suis rentrée à la maison, mais j'étais décomposée. Je me suis dit, mais attends, t'as pas commis un crime. Tu fais ton boulot. Tu t'avances pour le lundi matin. Et on te reproche. Je suis allée voir le médecin qui m'a arrêtée. Et j'ai fait un burn-out, quoi, en fait.
Oui. Oui, c'est une accumulation de trop, là. Ça s'est enchaîné à chaque fois avec un échec au bout de chaque nouvelle tentative, quoi.
Tout à fait.
Donc ça, plus ça, au bout d'un moment, ça devient trop lourd. Hein.
Exactement. Et en fait, j'ai là, par contre, c'est moi qui ai demandé une rupture conventionnelle. Mmh. Quand j'étais un peu plus sereine, parce que ça n'a pas été une période facile.
J'imagine, oui.
J'ai été arrêtée de septembre à novembre.
Mais pendant cet arrêt-là, est-ce que vous avez fait une thérapie?
J'étais incapable de faire quoi que ce soit.
Vous n'arriviez pas, d'accord.
Non.
Ok.
Je me renfermais sur moi-même, voulant voir personne. Les courses hebdomadaires, c'était une corvée.
Oui, la vraie dépression, quoi, l'enfermement.
Ouais. Ah puis ouais mais complètement quoi, je veux dire je sortais pas. Je voulais pas prendre la voiture, je me sentais pas capable de conduire. De peur d'avoir un accident, de peur de aucune confiance en moi. Mais vraiment aucune confiance, plus aucune confiance.
On vous l'a bien saboté la confiance hein, avec tout ça.
Ah oui, oui oui.
Est-ce qu'ils se sont manifestés au boulot pendant cette période-là?
Absolument pas. Non, rien.
D'accord.
Pas de fantadinage.
À la limite, vu ce que vous me décrivez, c'était peut-être une bonne chose, parce qu'ils auraient pu en plus vous harceler.
Ouais.
Vous menacer. Oui, d'accord. Donc vous me dites que quand ça va un peu mieux, vous vous sentez de négocier une convention.
Une rupture conventionnelle,
oui.
Donc je me suis fait assister par un délégué syndical, parce que dans cette boîte, il n'y avait pas de délégués syndicaux. Donc, j'ai fini par trouver quelqu'un, parce que j'ai envoyé le courrier recommandé avec AR, etc. Enfin, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Hein. Et puis, j'ai été convoquée à l'entretien, donc accompagnée par quelqu'un, parce que je me suis dit, ils vont encore me casser. Donc,
oui, très bien, c'est très bonne chose, ça, oui.
Je veux vraiment être accompagnée de quelqu'un. Donc, un conseiller syndical m'a accompagnée. Finalement, l'entretien s'est plutôt bien passé.
Mais oui, vous n'étiez pas seule face à l'autre. Donc,
voilà.
Les gens se comportent différemment.
Hein. C'est pour ça que je ne voulais pas être seule. Et puis, j'ai quitté définitivement ce bureau le 30 novembre 2021.
Donc, il y a 6 mois de ça, à peu près, 6-7 mois.
Voilà. Mmh. En décembre, j'ai eu un entretien dans un autre... Je veux pas dire comment.
Dans le même milieu, on va dire. Dans le même milieu.
Dans le même milieu, voilà. D'accord. Absolument. Mmh. Et donc, pour un remplacement de congé maternité, donc un poste à pourvoir début janvier 2022. Mmh. Donc, voilà. Ce contrat se terminera fin juillet.
Oui, parce qu'au bout d'un moment, le bébé arrive, ouais, c'est normal.
Voilà. Et là, c'est encore des reproches.
Quel type de
encore
reproche?
Encore ce choix. Comment?
Quel type de reproche?
Alors que je ne m'investis pas dans le travail.
Ah, c'est l'inverse, là, alors.
Alors que les heures, c'est pareil, je ne les compte pas. Je ramène parfois, c'est arrivé de temps en temps, pas tout le temps, de ramener du travail à la maison. Que j'ai pas de je manque de motivation.
Oui.
Alors que bon bah c'est pareil, s'il y a quelque chose d'urgent, et ben je reste.
Non mais là il est clair que ça va pas. Il y a un décalage entre ce qui se passe, entre la manière dont vous le vivez. Et la réalité, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'axe, là, dans cette histoire.
Mais je deviens parano. Hein.
Non, je ne pense pas que vous soyez parano. Je pense qu'il y a, quelque chose qui se joue d'une répétition. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même, dès le départ, vous l'avez mentionné, un rapport aux femmes qui a l'air compliqué pour vous.
Absolument.
Comme si les femmes étaient toujours en rivalité avec vous et n'arrivaient pas à faire de vous une amie. Comme si vous deviez vous méfier de ces femmes-là qui vous trahissent.
Voilà, et c'est pour ça que tout à l'heure, en commençant l'entretien, je vous ai parlé d'un auxiliaire pendant 14 ans.
J'ai bien compris qu'avec lui, ça s'était bien passé.
Voilà.
Alors j'imagine que vous vous êtes déjà posé la question, mais dans votre vie privée, votre enfance et votre adolescence, quelle est la femme qui a pu vous faire du mal comme ça, qui a pu vous trahir?
Ma mère.
Et voilà. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin, hein. C'était une femme comment, cette mère-là? Ou une mère soumise. Comment? C'est l'inverse. Je suis une mère comment, cette femme-là, plutôt?
Ouais, non, mais j'avais compris. Soumise.
Et donc, il ne vous a pas protégée quand il fallait?
Ouais.
Et c'est votre père à qui elle était soumise?
Oh ben non, c'était mon père qui patronnait tout ça.
Oui, c'est ça. C'est votre père à qui elle était soumise?
Ouais. Oui, pardon, excusez-moi. C'est
et,
pas
donc,
compris, ouais,
et donc, oui, d'accord. Et donc forcément, il y a eu des manquements là dans son elle a pas pu se comporter comme une mère
non.
Rassurante et protectrice.
D'ailleurs, je suis en froid avec elle.
À quel moment particulier elle vous a entre guillemets trahi ou en tout cas elle n'a pas été capable de vous aider, de vous protéger? Dans quelles circonstances?
Dès le CP.
Mais il s'agit là de vous parler de violence physique ou psychologique?
Non, psychologique.
Psychologique. Parce qu'elle-même était dans le fond du trou, peut-être qu'elle n'était pas capable de faire mieux?
Je ne sais pas. Mais bon, j'ai eu un père extrêmement sévère.
Parce que là... Oui.
Qui laissait passer absolument rien. C'est-à-dire qu'il voulait les résultats scolaires le mieux possible.
Et c'était jamais... Même quand c'était bon, c'était pas assez bien, c'est ça?
Oui.
Ouais. Je vois le genre.
Et puis, à l'époque, l'apprentissage de la lecture, c'était une méthode globale.
Ah.
Et lui, il voulait la méthode syllabique.
Et donc,
il
voulait, mais c'est pas lui qui décide.
Ah ben, si, à la maison, quand il me faisait lire, c'était « tu déchiffres ».
Ah oui, donc vous aviez deux méthodes différentes d'apprentissage en même temps, ce qui est contre-productif la plupart du temps. Hein.
Absolument.
Et oui.
Et la table faisais mes lectures avec lui. Et on a pris des coups. Ah. Heureusement, c'était la table.
J'allais vous dire, il fallait mieux que ce soit la table. Mais quand même, pour une petite fille, c'est angoissant, forcément. C'est stressant. Mm. Et ça aide pas à avoir confiance en soi. Et ce qui est terrible, c'est que ces gens-là, quand on leur dit ça, ils disent « Oui, mais c'est pour son bien que j'ai fait ça. C'est parce que je voulais le meilleur pour elle. »
Exactement. Et oui. Exactement. Exactement. Mais c'était pour ton bien. Mais c'était pour ton bien.
Ben voyons. Ouais, le problème, c'est que le résultat, c'est pile l'inverse, quoi.
Exactement. Et bon, j'en paye les pots cassés, quoi, aujourd'hui.
Ben, je pense que vous avez une de ce que j'entends, là, aujourd'hui. Attention, je ne remets absolument pas en cause ce qui vous est arrivé. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est curieux d'ailleurs, c'est qu'une fois encore, ça correspond à l'intro que j'ai faite en début d'émission. Et sachant que j'écris mes intros bien avant l'émission, je ne savais pas qu'on allait commencer par vous. C'est chacun a sa carte du monde et chacun perçoit les choses en fonction de ses blessures.
Ouais, oui.
Et quand on a une blessure de rejet qui a l'air d'être assez présente chez vous, à chaque fois qu'on demande quelque chose ou qu'on espère quelque chose et qu'on est face à un mur, qu'on nous dit non, on prend ça pour un rejet de qui on est, pas un rejet de ce qu'on demande. Si vous demandez un service à quelqu'un, si vous demandez à être accepté, intégré, et qu'on vous montre que ce n'est pas le cas, vous vous sentez immédiatement profondément rejeté.
Oui.
Et ça prend des proportions chez vous qui vous font du mal, qui sont importantes, qui sont fortes. Quelqu'un d'autre qui n'aurait pas vécu une enfance comme la vôtre pourrait dire « Bon, moi, je m'en fous, finalement, ils me font des reproches, ça me passe au-dessus. Elles sont jalouses, ça me passe au-dessus. Elles m'agressent, bon, voilà. Mais chez vous, ça vous touche là où ça fait mal. »
Ah, c'est l'horreur.
Et donc,
c'est
ça prend des proportions, cette blessure-là, qui sont... Voilà, le résultat est là, quoi. Vous avez été plusieurs fois dans le fond du trou. Et puis, ce qui se passe après, c'est une espèce d'autoprogrammation. Vous savez que chaque pensée est déjà une auto-hypnose. Et donc, vous avez tellement enchaîné les galères et les épreuves qui n'ont pas réussi que, plus ou moins consciemment, je pense qu'à chaque fois que vous avez commencé un nouveau contrat, vous vous êtes mis dans cet état d'esprit-là, qui est « qu'est-ce qui va encore m'arriver ?»
Alors, j'ai fait des séances d'hypnose, quand même.
Ouais.
Et pour tout vous dire, la première séance, c'était avec un homme. Et donc, il me parlait. Et ce que j'ai fait dans cette séance d'hypnose, je suis montée au grenier. Alors que, bon, chez mes parents, il y a un grenier, mais il n'y avait pas mes cours. Je suis allée chercher les cours de maths, etc. Et je les ai mis à la poubelle. Il y avait une énorme poubelle.
Oui.
Et tout a été mis dans la poubelle.
Est-ce que ça vous a fait du bien de vous débarrasser de tout ça?
Oui, mais bon, ça ne suffit pas. Parce que la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, ce soir, j'ai encore eu des reproches de la part de ma patronne.
Non, il est clair que le problème n'est pas résolu. Là, quand je vous écoute, il y a un schéma qui se reproduit systématiquement, qui n'est pas un hasard.
Ouais. Et on me méprise.
Vous le vivez comme tel.
Tant dans les paroles que dans le regard. Dans la façon dont elle vous parle, dans la façon dont elle vous regarde, dans la façon, son attitude, elle est méprisante.
C'est là où je vous dis attention, parce que j'entends bien que vous le ressentez comme ça profondément, et bien évidemment je vous crois. Mais une fois de plus, quand on est blessé, notamment cette blessure de rejet, on ne perçoit pas forcément les choses exactement comme elles sont, mais comme nous on est. Est-ce que vous comprenez ce que je tente de vous expliquer là? C'est que vous êtes profondément blessé depuis longtemps, depuis cette enfance, depuis cette maman qui n'a pas su être protectrice, rassurante. Enfin, je ne connais pas exactement le contexte, mais de ce que j'entends, qui ne vous a pas apporté ce que vous auriez espéré. Et donc pour vous, il y a aussi cette image de la femme en qui on ne peut pas avoir confiance.
Ouais.
Schématiquement, c'est voilà, une femme, c'est pas quelqu'un qui peut me protéger, qui peut être ma complice, qui peut me rassurer. C'est forcément quelqu'un qui va me trahir, qui ne va pas être à la hauteur de ce que j'espère. Et donc ça, c'est presque le cadre. Je parlais de carte du monde tout à l'heure. C'est votre carte du monde à vous. Pour vous, une femme, c'est ça. Est-ce que vous avez une meilleure amie, par exemple?
Meilleure amie, j'en ai une, oui.
Donc il y a quand même une femme à qui vous pouvez faire confiance, vous voyez?
Oui.
Ça serait bien d'arriver à mettre ça dans la balance aussi, de temps en temps, vous dire que voilà, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. On peut être en confiance avec une autre femme, on peut être complice, on peut se soutenir.
Ouais, on s'est soutenu, elle a eu des gros soucis avec son mari est tombé gravement malade et on était voisins. Et je l'ai beaucoup épaulé. Et inversement, là maintenant, on s'est encore appelé mardi ou mercredi.
Elle est là pour vous.
Oui.
Bon, ça c'est bien, ça c'est extrêmement important vu le contexte. Est-ce que vous êtes mariée, est-ce que vous avez des enfants?
Mariée, oui, sans enfants, malheureusement.
Et votre mari il se comporte comment avec vous, dans ces moments-là et globalement?
Il m'avait dit un jour, excusez le terme, hein, tes emmerdes, je commence à en avoir assez.
Ah oui, c'est pas très soutenant ça, effectivement.
Non.
Bon, et depuis ça s'est calmé ou il est toujours aussi sec?
Disons que je n'en parle pas, moins possible.
Ah oui, c'est dur ça, de garder ça pour soi quand même, en plus.
Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on vous dit ça...
Mais ça veut dire que vous n'en avez jamais parlé non plus avec un thérapeute?
Non,
parce que vous me dites que pendant la dépression, vous étiez vraiment dans le fond du trou, que depuis, vous avez enchaîné. Et ça veut dire que vous gardez tout ça à l'intérieur, vous vous rendez compte? Il y a de quoi craquer.
Moi, j'ai fait des séances, je vous dis, j'ai fait...
Un petit peu d'hypnose, oui.
Ouais, ouais. Un peu d'hypnose, oui.
Combien de séances?
Au moins 4, oui.
Ouais, c'est le minimum, c'est pas beau. Vu tout ce qu'il y a à travailler, là, je pense que c'est pas beaucoup, 4, vous voyez. Parce qu'effectivement, on vous a expliqué les blessures dont je parle régulièrement, les 5 blessures de l'enfance. Ou pas?
Dites voir.
Trahison, rejet.
Ouais, je vais noter. Attendez, je vais noter.
C'est facile pour s'en souvenir, on pense au mot trahi. T-R-A-H-I. T comme trahison.
Oui.
R comme rejet.
Oui.
A comme abandon.
Oui.
H comme humiliation.
Humiliation,
et
ouais.
I comme injustice. Trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice.
Ah bah là, c'est oui.
Et ces blessures-là, ouais. elles nous forcent à porter des masques qui nous faussent la réalité. Et notamment quand on a cette blessure de rejet, une fois encore, quand on demande quelque chose et qu'on nous dit non, on n'arrive pas à prendre ça pour un refus de ce qu'on demande, mais tout de suite pour un rejet de qui on est. Et vous le vivez vraiment comme ça, vous vivez profondément tout ce qui vous arrive comme une trahison ou un rejet. Mmh. Alors que ça ne l'est pas forcément, que peut-être l'intention n'est pas cette intention-là. De toutes ces femmes que vous avez croisées là, sur ces différentes entreprises et qui vous ont, selon votre ressenti, trahi ou en tout cas humilié ou maltraité ou engueulé ou insulté, vous l'avez perçu comme ça. Peut-être que l'intention n'était pas celle-là.
Possible, oui.
Mais vous êtes tellement blessée que vous l'avez perçu comme ça. Et malheureusement, que ce soit la réalité ou votre réalité, ça ne change pas puisque vous en souffrez. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut travailler. Oui.
Travailler,
arriver à vous rendre compte que peut-être vous mettez une sorte de filtre un peu commun sur chaque histoire et puis c'est presque une autoprogrammation. Comme pour vous prouver, parce que quand on a une blessure, quelle qu'elle soit, l'une des 5, de manière générale, on en a plusieurs, hein, je vous rassure, on est tous pareils, on a tendance à vouloir se prouver qu'on a raison. Et c'est comme si la fois d'après, vous attendiez presque à ce que ça recommence, et ça recommence.
Et là, ouais.
Et là, vous vous dites, ben voilà, je le savais, de toute façon, ça allait recommencer.
Donc, on a l'impression ouais, que, que je les attire, ces gens-là, ces femmes-là.
Ce sont les situations que vous attirez, mais vous savez pourquoi? Parce que c'est marrant, parce que vous correspondez non seulement à la phrase d'intro de mon émission, mais ça sera la phrase de fin aussi. Je vais vous la donner tout de suite en exclusivité, pour le coup. Ça dit, la vie est un si bon prof que si tu n'apprends pas la leçon, elle te la répète. Et c'est pas que vous attirez ce type de femme-là, c'est que vous attirez ce type de situation-là parce que vous n'avez pas encore résolu le problème.
Ouais.
Quand vous aurez travaillé sur cette blessure de rejet, comme par hasard, vous n'attirez plus ces situations-là. Et oui, la vie nous remet dans les mêmes situations tant qu'on n'en a pas appris quelque chose.
Ouais.
Et vous n'allez pas pouvoir régler... Votre maman est toujours en vie?
Oui.
Et comment ça se passe avec elle aujourd'hui?
Ben, quand je l'appelle, quand les rares fois où elle appelle...
Oui, vous m'avez dit que vous gardez des distances, oui, pardon, ça me revient.
Alors déjà, géographiquement, distance. Et puis, la dernière fois que je l'ai appelée, je lui ai dit, de toute manière, j'ai rien à te raconter.
Elle dit ça ou vous?
Non, c'est moi.
C'est vous qui dites ça, oui.
J'ai rien à te dire.
Vous n'avez jamais eu l'occasion de lui parler de ces manquements?
Si, mais bon, non, elle ne veut pas... Non, c'est pas vrai.
Elle est dans le déni. Alors, soit elle est vraiment persuadée que c'est pas vrai, soit c'est trop difficile pour elle à accepter et à affronter.
Je sais pas.
Mais quoi qu'il en soit, vous, ça vous laisse avec votre blessure béante, quoi.
Ah ouais, c'est... Mais là, ce soir, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, mais c'est pas possible de me traiter encore comme ça, quoi.
Oui.
Donc, j'ai plus confiance en moi, quoi. Au bout d'un moment... J'ai hâte, bon, c'est un CDD et je me dis vivement que ça se termine, quoi.
Mais ce qui est important, c'est tout que tout ce qui vous est arrivé vous en fassiez quelque chose. Il faut que ça vous serve à quelque chose. Sinon, ça va recommencer.
Ben ouais, c'est ça.
Donc le but, c'est vraiment de comprendre que là, mais il va vraiment falloir travailler là-dessus pour que ça ne se reproduise pas.
Parce et ben, l'hypnose, c'est pas suffisant. À votre avis, c'est pas suffisant.
Là, en l'occurrence, je dirais que ce n'est pas suffisant, puis surtout 4 séances, ce n'est pas suffisant. Mais je pense qu'au-delà de ça, vous auriez vraiment besoin de parler. Les deux peuvent être très, très complémentaires, vous savez.
Oui.
Mais il y a quelque chose de l'enfance qui n'est pas réglé et qui se rejoue là à chaque fois avec ces femmes-là, comme par hasard. Des femmes,
ouais,
des femmes
ouais.
qui ont un rôle supérieur, comme la mère a un rôle supérieur, symboliquement, vous voyez.
Oui.
Et elles se comportent avec vous. En tout cas, vous le percevez comme ça, parce que tout à l'heure, quand je vous ai demandé de me dire quelles étaient les insultes, j'ai pas entendu d'insulte. Vous dites elles m'ont insultée ou elle m'a insultée.
Ben elle m'a dit que voilà je manque d'intérêt, manque d'investissement, manque de.
Oui, j'ai bien entendu ça, mais ce ne sont pas des insultes. Vous l'avez vécu extrêmement violemment, comme un animal blessé qui surréagit. Parce que vous êtes en souffrance de tout ça. Et donc, chaque phrase, vous la prenez puissance 10 dans la tête. Mais quand on dézoome un petit peu, on se dit, si elle soigne sa blessure, ça lui fera beaucoup moins mal la prochaine fois. Ce ne sont pas des insultes, tout ça. C'est désagréable, certes. C'est pas juste, certes, mais ce ne sont pas des insultes.
Ouais, mais je l'ai pris comme ça.
Et
fait,
voilà, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est vous le prenez comme ça parce que vous êtes souffrante. Vous êtes en souffrance. Et c'est normal de le prendre comme ça quand on souffre, parce que la blessure est béante.
Et puis je suis fatiguée aussi, enfin il y a la fatigue qui n'arrange rien. Alors elle me dit, si vous êtes fatiguée, vous n'avez qu'à vous faire arrêter.
Oui, on retourne dans le même schéma, je ne suis pas capable, il faut que je me soigne, enfin bon. Ce qui me surprend un peu, c'est quand vous avez été arrêtée, qui vous a fait un arrêt pour le burn-out?
Le médecin traitant.
Il n'a pas jugé utile de vous conseiller de voir un psy?
C'est lui qui m'a dit d'aller voir l'hypnotiseur.
D'accord. Ce qui est très bien, mais 4 séances, c'est très peu, quoi. Comment se fait-il que vous ayez arrêté, d'ailleurs?
En fait, si vous voulez, j'appelle l'hypnotiseur quand j'en ai vraiment besoin. Et là, je me dis qu'il va falloir que je le rappelle.
Parce que là, vous cherchez à régler la conséquence et pas la cause. Et ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas travailler sur une conséquence, vous voyez ce que je veux dire, sur un événement factuel, en l'occurrence là, voilà, ça s'est mal passé avec mon dernier boulot, sans aller voir ce qui se passe à la source. Pourquoi ça s'est encore mal passé? Pourquoi moi j'ai réagi comme ça? Parce qu'une fois en plus, une fois encore, ce qui est important, ce n'est pas comment les autres se comportent avec vous, c'est comment vous réagissez à ce qui se passe. Et vous verrez qu'en soignant cette blessure-là, qui est vraiment liée de ce que j'entends là à votre maman, vous ne serez plus dans des situations qui vous feront aussi mal. Vous vivrez peut-être des mêmes situations, mais vous les vivrez différemment. Vous ne serez plus une sorte de blessure béante qui souffre dès qu'on l'approche. Ça vous passera dessus beaucoup plus facilement.
Oui, j'imagine, oui.
Et ça aide quand même. Hein. Parce que malheureusement, le milieu professionnel est très souvent comme ça. Il est fait d'injustice, de mépris, d'humiliation, de rejet aussi. Mais quand on arrive à laisser glisser tout ça, alors c'est plus facile.
Non, mais je suis d'accord.
Mais là, il est clair chez vous. On dirait que je sens une petite réticence à aller travailler sur ce rapport avec maman, non? Comme si vous n'aviez pas envie d'aller parler de ça, je ne sais pas.
Je me dis que le mal, il est fait. On ne peut pas revenir en arrière.
Ça, c'est vrai.
Mais d'en avoir parlé avec ma chère mère, ça, c'est comme, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi.
Alors, je vais vous dire une chose. Ce qui est fait, vous avez entièrement raison. Le passé, c'est vrai. Mmh. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'elle elle ne vous humilie plus, elle n'a plus ce pouvoir sur vous. Mais certes, tout ce qui est passé, mais aujourd'hui, il reste les émotions qui sont accrochées à ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il faut aller travailler dessus. Ça ne changera pas le passé, ça changera la manière dont vous positionnez par rapport au passé. Et ça, c'est énorme. Bien sûr, ça ne change pas le passé. Aucune thérapie, aucun thérapeute au monde, quelle que soit la pratique, ne peut changer le passé. Mais le travail, l'idée, c'est pas de changer le passé, c'est d'arriver à changer la manière dont on le perçoit et la manière surtout dont on se positionne soi-même par rapport à ce passé, à ces événements. C'est aller chercher les ressources en soi qu'on a pour comprendre et avancer quand même. Parce que si on se dit, c'est le passé, je peux plus rien y faire, ce qui se passe. On est dans des schémas de répétition comme le vôtre, c'est retour à la case départ, et encore, et on se décourage. Et plus on se décourage, plus ça recommence. Et c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes entré malheureusement en 2017, quoi.
Ah oui, depuis 2017, c'est dur.
Et en plus, pas très soutenu à la maison, ce qui rajoute une petite couche un peu compliquée, quoi. C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir une épaule à la maison pour réparer un peu tout ça, mais bon.
Je crois qu'il en a marre aussi, au bout d'un moment, ce qui est normal. Je ne veux pas lui lancer la pierre non plus, mais... Oui. C'est un peu compréhensible aussi.
S'il n'a pas les clés, effectivement, on peut imaginer que ça puisse être difficile pour lui. Romy, ce que je vous propose, c'est qu'on continue à se parler un tout petit peu juste après les infos, si vous le voulez bien.
D'accord.
On va clôturer tout ça, on va réfléchir un petit peu pour avancer.
Ouais, d'accord, merci beaucoup.
Je vous récupère dans quelques minutes, merci à vous.
Europe 1. La Libre Antenne, Sabine Marin.
Passé de 9 minutes et c'est la suite de cette Libre Antenne. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre soirée. Il nous reste une heure à passer ensemble, une heure à partager des moments de vie, des questionnements, des confidences, des doutes, des espoirs aussi. Je vais y arriver, des désespoirs et des espoirs. J'ai rien bu pourtant, je vous promets. Pas encore en tout cas. Si vous souhaitez prendre la parole ce soir, 39-21, Cindy et Nicolas sont là, ils attendent vos appels au standard 39-21. Et pour les SMS, c'est le 739-21, suivi du mot nuit et de votre message. Et je vous remercie déjà pour vos nombreux messages pour mon anniversaire. Je vous embrasse tous très très fort.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 39-21, 50 centimes la minute.
Et c'est Romy que je récupère. Vous êtes là, Romy ?
Oui, on va recommencer en vous souhaitant un bon anniversaire.
Merci
beaucoup. Je ne savais pas.
Donc... Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous êtes les premières là ce soir. Alors, on en était à faire le point sur vos schémas répétitifs d'échecs dans le travail et surtout de maltraitance finalement psychologique. Et la question que je vous posais juste avant les infos, c'était, je sentais comme si vous n'aviez pas très envie d'aller faire une thérapie classique finalement.
De toute manière, il va falloir, parce que là, c'est, si vous voulez, c'est encore ce soir la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, là, pendant les infos, je repensais à ce qui m'avait été dit comme reproche. Mais là, c'est voilà. Vous faites des erreurs, certaines qui ne sont pas graves, mais d'autres qu'on est obligé de récupérer. Parce que bon, je n'ai pas confiance en moi, quoi, c'est clair.
Bah forcément, une fois de plus, c'est un cercle vicieux. Parce que, moi, objectivement, moi, si je dézoome et que j'entends ça, bah, je me dis, bon, bah, ok, rectifiez si ça vous chante. Et puis moi, je rectifierai de mon côté s'il le faut, point. C'est pas si grave. Pour vous, c'est blessant. Pour vous, c'est très violent.
Ah, mais c'est l'horreur, c'est humiliant. C'est,
Oui. C'est là-dessus qu'il faut vraiment vous faire aider.
Et puis, je vous dis, le ton, mais le ton, c'est méprisant. C'est... Enfin, puis elle a un regard qui est froid.
Mais là aussi, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire, vous interprétez ça, vous, comme ça, parce que ça vous touche. Peut-être que quelqu'un d'autre qui serait en face d'elle ne verrait pas ça de la même manière, ne verrait pas le même regard, ne verrait pas le même ton. Et peu importe, ce qui compte, c'est vous, c'est comment vous le vivez. Et si vous souhaitez ne faire que de l'hypnose, pourquoi pas, mais il faut vraiment aller creuser plus loin dans l'origine de cette blessure-là. Et donc dans le lien à votre mère.
Ah ben.
Ce premier lien qui vous a fait du mal et qui vous a mis dans une position effectivement de victime systématiquement par rapport à d'autres femmes, quoi. De quelqu'un qu'il fallait laisser dans son trou et ne pas surtout pas aider, au contraire plutôt l'enfoncer.
Ouais, et je suis l'aînée de la fratrie en plus. On n'est que deux, hein, certes, mais bon.
C'est une sœur ou un frère que vous avez?
Une sœur.
Une sœur. Et elle est comment de caractère?
Je la connais pas très bien en fait.
Ah ouais?
Non. Elle me comprend pas. Quand les rares fois où on parle de notre mère, elle comprend pas mon attitude vis-à-vis d'elle.
Est-ce que votre mère était différente avec elle?
Oui.
Ah ben voilà, ça change tout. Mais oui.
Ben oui, parce qu'en fait, elle a eu tellement de mal à la voir que c'était la numéro 2 désirée.
Ah, d'accord. Oui, donc là aussi, il y a un sentiment d'injustice pour vous. Il y a quelque chose de difficile. Comme si on vous avait détrôné, quoi.
Et oui. Ouais, parce que si elle a eu autant de mal à la voir, c'est de ma faute.
Elle vous a dit ça? Et pour quelle raison? Ça serait de votre faute?
Parce que c'est un problème de rhésus.
Et alors, en quoi vous êtes responsable du rhésus de votre mère?
Parce que je l'ai empoisonné quand je suis née.
Oh là là, oui. Bon, effectivement, il y a un vrai travail à faire. Là, il faut vous débarrasser de tout ça, hein, Romy, vraiment. Mon Dieu, tout ce poison, c'est elle qui vous a mis du poison dans la tête, surtout, hein, j'ai l'impression.
Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je t'ai empoisonné.
Ouais.
Et bien, je t'empoisonne ta vie maintenant.
Non, mais une fois de plus, ça en dit long sur elle, quoi. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est une pauvre femme. Elle n'a pas été capable de jouer son rôle de mère et de vous apporter de l'amour et de la protection. Donc, mais une fois encore, vous avez raison, c'est du passé, on ne peut pas changer le passé. Mais on peut réparer, on peut cicatriser des blessures. Ça veut dire qu'il y aura toujours la blessure. Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais une cicatrice, une fois qu'elle est fermée, ça fait plus mal. Et c'est ça, c'est ce à quoi ça sert une thérapie, vous voyez. Jamais on enlèvera la blessure. Mais on la cicatrisera.
Et croyez-moi honnêtement, mais comment la cicatriser? Parce que en parler, c'est bien, mais comment on fait pour cicatriser ce genre de...
Ah bah déjà, en en prenant conscience et en parlant, c'est la moitié du chemin. Et c'est pour ça que je vous dis que l'hypnose peut être tout à fait complémentaire à ça, puisque vous allez travailler sur les émotions, sur les symboles, comme vous avez fait en allant vider le grenier, en allant jeter tout ça.
Mais c'était les cours qui ont été jetés. Dans cette grande poubelle.
Oui, mais dans les cours, c'est aussi le symbole de tout ce qui a été la maltraitance. Si j'ai bien compris de votre père.
Oui.
Cette exigence permanente.
Oui.
Et là aussi, on retrouve d'ailleurs, en parlant, je me rends compte qu'on retrouve quelque chose de l'exigence permanente à laquelle vous n'arrivez pas à accéder. Comme si à chaque fois, les reproches qu'on vous faisait, c'est « t'es pas assez bonne, t'es décevante, t'as pas réussi ce qu'on espérait de toi ».
Absolument.
Là aussi, il y a quelque chose qui se répète, vous voyez. Il va falloir rendre à César ce qui est à César dans votre histoire de vie. Ce que votre père vous a reproché, ce n'était pas la réalité, c'était lui qui voyait les choses comme ça. Pour des raisons qui lui sont propres, mais c'est vous qui avez tout porté, quoi.
Ouais. Ma sœur n'a pas eu tout ça, quoi.
Et oui, vous étiez la première qui a récolté, qui a fait votre... Ah bah. Malheureusement, oui. Et oui.
On dit souvent que les aînés sont pas les plus mal lotis, mais souvent on dit.
Bon, après, ça dépend tellement de chaque famille. Mais bon, c'est vrai que les premiers font les frais de beaucoup de choses, quelquefois.
Oui.
Parce que les parents, c'est la première fois qu'ils sont parents. Donc forcément, il y a aussi toutes les erreurs commises.
Voilà. Et sur le deuxième,
on lâche un peu prise, peut-être, différemment. Oui. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là dans votre histoire de travail. Là. Ça n'est jamais assez bien.
Voilà. Alors, ce qui est aussi paradoxal, c'est qu'on m'a reproché, pas là présentement, mais dans le passé, d'être trop perfectionniste. Vous voyez, c'est paradoxal, ça.
Mais je pense que vous, finalement, c'est comme votre père qui était trop perfectionniste aussi. Et je pense que vous l'êtes, c'est-à-dire que vous avez eu tellement envie de lui plaire et d'arriver à le satisfaire, ce père-là qui n'était jamais content, que vous avez probablement développé ce côté trop perfectionniste.
Oui, mais perfectionniste en faisant des erreurs. Donc ça ne peut pas...
Et oui, là aussi, on revient à ce schéma initial qui était... Quoi que je fasse, de toute façon, j'en fais plus pour essayer de faire mieux, mais finalement, ça ne plaît pas non plus.
Voilà.
Et donc, c'est ce que l'expérience vient vous dire, c'est que si ça ne fonctionne pas comme ça, il faut changer de fonctionnement. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut restaurer, c'est vraiment l'estime de vous-même, la confiance en vous, et le fait que vous répétez des schémas qui sont bons à acheter à la poubelle aussi, comme ce qu'il y avait dans le grenier, vous voyez.
Ouais. Mais vous croyez que je vais m'en sortir?
Bien sûr, évidemment, vous allez vous en sortir, Romy. Bah, évidemment. Le fait déjà d'avoir compris tout ça, c'est énorme. C'est un sacré chemin déjà. Vous comprenez pourquoi vous vivez les choses comme ça. Et vous comprenez que ce ne sont pas les choses qui vont changer, c'est vous. Ce ne sont pas les autres que vous allez changer, c'est la manière dont vous les percevez.
Ouais.
Et donc dont vous réagissez ou plus. Parce que finalement, un jour, quand ça nous glisse dessus, ça fait du bien aussi. Hein.
Oui, mais c'est vrai que j'encaisse tout. Quoi.
Et non seulement vous encaissez tout, mais vous gardez tout à l'intérieur.
Ouais.
Il est temps que ça sorte maintenant. Quelle que soit la manière dont ça sorte, que ce soit l'hypnose ou la thérapie classique, allez faire sortir tout ça. Et vous allez voir que quand la blessure sera réparée, ça fera beaucoup moins mal, voire plus mal du tout. Et quand on a pas mal, alors l'agression des autres, l'agressivité des autres, on s'en fiche. Ça glisse.
Oui.
C'est vraiment exactement l'image d'une plaie. Quand vous avez de l'acide qui est sur une plaie ouverte, ça vous fait même mal du chien. Quand ça passe sur une plaie fermée, de l'alcool à brûler ou l'alcool tout court, sur une plaie ouverte, vous savez à quel point ça fait mal. Une fois que la plaie est fermée, ça peut couler sur la peau, ça brûle plus, c'est fini.
Ouais.
C'est exactement la même chose.
Est-ce que vous trouvez normal que là où je travaille, personne... Enfin, les gens mangent entre eux, mais moi je suis
rejetée.
Rejetée.
Oui, ben oui, il s'agit pas de normalité, oui, parce que vous êtes encore dans ce schéma de rejet que vous provoquez inconsciemment.
Et personne ne me propose allez hop, on va manger un bout. Il y a plein de restos dans le quartier où je travaille. Allez, viens, on va manger un bout ensemble. Non.
Je vous assure, Romy, que quand vous aurez soigné cette blessure de rejet, ça changera tout ça. Vous verrez. Vous le provoquez inconsciemment, ça. Parce que c'est comme si vous avez grandi avec l'idée profondément ancrée en vous que vous ne méritez pas. Et donc, il se dégage de vous quelque chose qui est de cet ordre-là. Je ne mérite pas qu'on s'intéresse à moi. J'arrive pas. Je suis pas assez bonne. Je suis pas au niveau. Et donc, c'est inconsciemment ce qui se dégage de vous et ce que les autres vous renvoient forcément.
Je me dévalorise, en fait.
Et voilà. Mm. Et on n'a pas envie d'aller avec quelqu'un qui se dévalorise. Parce que
ça, c'est vrai.
C'est l'image que vous projetez aux autres qu'ils reçoivent.
Yes,
pas la réalité. Mm. Et vous allez apprendre à changer cette image-là en travaillant sur ça. Vous allez voir.
Ouais.
C'est pas grand-chose qu'il y a comme travail à faire. Là. Vous avez déjà fait beaucoup. Vous avez déjà compris beaucoup de choses. Oh oui, bien sûr.
Vous pensez que ça peut aller vite ?
Oh oui. Les choses peuvent changer très vite. Vous savez, je suis persuadée qu'on a tous la capacité d'intégrer très vite ce qui est bon pour nous et positif pour nous. Une fois qu'on a trouvé le chemin à prendre, on peut le prendre très vite.
Oui, parce que je ne peux plus, là.
Mais oui, mais en même temps, vous n'avez pas posé d'action pour changer les choses. Vous voyez, à part m'appeler ce soir, ce qui est déjà un premier pas.
Oui.
Donc là, maintenant, pour que ça bouge, il faut poser des actions. Avancer. Reprenez rendez-vous avec ce thérapeute et peut-être avec quelqu'un d'autre en complément.
Oui, je vais l'appeler la semaine prochaine, ce petit hypnotiseur.
Si ça s'est bien passé avec lui, c'est parfait.
Oui. Et psychologue, il vaut mieux un homme ou une femme à votre avis?
Alors ça, c'est vraiment vous qui voyez, c'est une question de feeling. Hein. J'ai bien compris que là, vous avez un souci avec les femmes, mais justement, c'est peut-être l'occasion d'avoir une femme sur qui vous pourriez compter. Puisque là, vous avez encore choisi un thérapeute homme en hypnose.
Oui.
Peut-être travailler avec une femme qui pourrait apaiser
vous
un peu.
Vous pensez que c'est mieux?
Non, je ne pense pas que c'est mieux. Je dis peut-être que c'est à vous de voir.
Peut-être, ouais, d'accord.
Il y a pas de... C'est auto-feeling, ça. Ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. Mais méfiez-vous quand même de pas trop fuir les femmes, parce que là, j'entends encore qu'il y a que des hommes autour de vous dans thérapie. Donc, c'est pas forcément la bonne idée non plus. Vous verrez un jour que ça peut être chouette, les relations entre femmes.
Excusez-moi, j'ai pas compris.
Vous verrez qu'un jour, ça peut être chouette, des relations entre femmes. Ça peut être complice, ça peut être soutenant, ça peut être aidant, et pas forcément méprisant.
Mais j'ai des amis, enfin bon, la majorité des amis est en couple, hein, donc... Mais c'est vrai qu'amicalement, ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de souci.
Et c'est là où
dans le milieu professionnel.
C'est là où je repointe votre père, parce que c'était au niveau du travail que ça se passait mal dans l'enfance. Mm. Et donc là, il y a un peu les deux. Il y a le côté maman qui vous a fait perdre l'estime de vous, on va dire.
Mm.
Et puis le côté du père qui vous a méprisé, qui vous a fait comprendre qu'au niveau du travail, puisque en étant enfant, le travail, c'est l'école, forcément.
Bien sûr,
vous n'étiez jamais à un niveau jamais assez bonne.
Mm. Donc, les punitions, quand je ramenais un bulletin scolaire qui n'était pas potable, qui n'était pas très bon. Waouh. Wow. C'était la sanction. Hein. Pas de pitié. Hein. Là.
Oui, c'est dur tout ça. C'était difficile pour vous, évidemment, bien sûr.
Alors, j'ai pas des capacités intellectuelles non plus exceptionnelles, hein, non plus, enfin. Mais bulletin scolaire, le trimestre a été pas bon, et ben tu partiras pour ski, tu feras pas ci, tu feras pas ça.
Ouais, et c'est là que votre mère derrière n'a jamais été soutenante. Elle
non.
A jamais, voilà, et oui. Là, vous auriez pu avoir de l'aide, il y avait rien, il y avait un grand vide.
Oui.
Bon, écoutez, Romy, j'espère que notre conversation vous aura fait avancer.
Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est...
Et croyez-moi, ça peut aller plus vite qu'on imagine.
Bah, écoutez,
et des belles choses peuvent se mettre en place.
Oui.
Rappelez-moi dans quelques temps pour me raconter comment vous évoluez, ça m'intéresserait.
Oui, d'accord.
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 Prenez soin de vous, Romy.
Je terminerai en disant... Enfin, tout à l'heure, je lui ai dit à la responsable... Je lui dis, bon, si vous voulez qu'on rompe le contrat, on le rompt. Puis voilà.
C'est pas... Réécoutez tout ce qu'on s'est dit, Romy. Le problème, il ne vient pas des autres pour l'instant.
Ouais.
Soignez vos blessures à vous. Il n'y aura plus d'agressivité de la part des autres, vous verrez. En tout cas, vous la vivrez différemment et ça sera bien plus facile à gérer tout ça.
Ouais, merci beaucoup.
Je vous embrasse.
Moi aussi. Et puis encore bon anniversaire.
Merci beaucoup. Au revoir, Romy.
Au revoir Sabine, merci beaucoup.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et bonsoir Estelle.
Bonsoir Sabine.
Ravie de faire votre connaissance.
Bah, écoutez, merci de me prendre à l'antenne pour pouvoir un peu m'avoir raconté un peu ma vie.
Alors je vous écoute.
Donc en fait, j'ai 52 ans. Et bon, bah, j'ai des gros problèmes de relationnel avec mes parents et mes sœurs.
Mmh.
Voilà, et donc toute ma vie, j'ai pas pu me construire personnellement, je pense, à cause de cette relation. Et donc voilà, je vous appelle pour avoir des conseils, savoir un peu comment je peux remédier un peu à ça.
Alors racontez-moi, vous êtes la combienième de la fratrie ?
Moi, je suis la première.
L'aînée.
Et j'ai deux sœurs. Je suis l'aînée, oui.
Donc trois filles, d'accord.
On est trois filles. J'ai un papa, bon, j'écoutais la jeune fille juste avant vous. Alors moi, c'est un petit peu le contraire. J'ai un papa qui a 75 ans maintenant et qui a été soumis aux femmes toute sa vie.
Ah oui.
Oui. Et pas de chance pour lui, on va dire. Il a eu trois filles. Et donc ça a été très compliqué parce que je pense que mon père n'était pas fait pour être père. Et de plus, il voulait, je pense, un garçon et il a eu trois filles.
La vie est farce. Hein.
C'est incroyable.
Et donc, j'en déduis que votre mère est une femme à forte personnalité.
Voilà, tout à fait. Alors, oui. C'est tout à fait le contraire, complètement le contraire. Mais rajoutant quelque chose de grave aussi qui s'est passé, c'est que mon père, son père, donc mon grand-père que je n'ai pas connu, s'est suicidé.
Il avait quel âge, votre père, à ce moment-là ?
22 ans.
Quand son père... Oui, oh là là, oui.
Et c'est lui qui l'a trouvé.
Ouf. Oui.
Et nous portons ce poids, en fait, parce que dans cette famille, on n'en a jamais... On ne peut pas parler de cette histoire.
Ah, donc en plus... Oui, d'accord. Oui.
Cette personne qui s'est donné la mort, je dis ça parce que moi, je ne le connais pas, jamais on nous en a parlé... Et mon père, je pense, est quelqu'un qui est très malheureux. Toute sa vie a été très malheureux. Une maman très castratrice, une femme très autoritaire. Trois filles, et dont moi, j'ai été la rebelle de la famille.
C'est intéressant quand vous dites, cet homme qui s'est suicidé, c'est votre grand-père quand même. Même si vous ne l'avez pas connu, c'est votre grand-père. Ça n'est pas rien.
Non, ah oui, bien sûr que ça n'est pas rien.
Mais ça en dit long sur les non-dits, justement, oui.
Voilà.
Et les non-liens.
Exactement, on nous l'a toujours caché. Moi, je l'ai découvert, je l'ai appris quand j'avais 18 ans ou 17 ans.
Comment vous l'avez appris ?
Par ma cousine. Et ça m'a choquée parce qu'on nous a toujours dit qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais jamais personne n'a parlé de... J'arrive même pas à dire mon grand-père. Jamais personne n'a parlé de cet homme, en fait. Il n'a jamais existé.
Est-ce que c'est le tabou autour du suicide ou c'est globalement une famille qui est juste taiseuse, comme ça, qui ne partage pas ses émotions, qui ne parle pas ?
Exactement. C'est une famille aussi bien du côté de mon père, oui, tout à fait. Personne ne parle jamais de rien. Une famille très catholique, avec une grand-mère très castratrice. Ma grand-mère était comme ça, les femmes... sont des femmes, les hommes, les femmes, ménage, maison, mariage. Et encore, on n'en parlait pas. C'est très, c'est bizarre, j'ai 52 ans, mais pour moi, c'est encore... je ne comprends pas comment on pouvait se comporter comme ça, on peut se comporter comme ça. Mon père donc, est né dans cette famille-là. Et comme je pense que son père, quand il s'est suicidé, ça a été un grand, grand choc.
Puis c'est le tabou suprême dans ce genre de famille en plus.
Et oui,
c'est vraiment le sujet qu'on n'aborde pas, quoi.
C'est vraiment un tabou incroyable. Et mon père, on a été très malheureux, nous a donc complètement rejetés. On n'a pas de lien avec mon père, donc c'est pareil. Des fois, je dis mon père, mais j'ai du mal. Comme mon grand-père, j'arrive pas à le dire.
Et quand vous dites rejeté, ça s'est matérialisé comment ? Il était physiquement là quand même ou il a quitté la maison ?
Oui, oui.
Non, il était là.
Non, mais il a toujours été là. Mes parents sont toujours mariés. Mais mon père a toujours été dans un autre monde.
Un présent absent, quoi.
Complètement. C'est-à-dire là, sans être là, ne parlait jamais... nous a jamais touché de tendresse, on n'a jamais eu d'affection, on n'a jamais rien partagé, même toute petite, on a été, il y avait que ma mère qui gérait tout, parce que mon père, je crois que maintenant, avec le recul, n'avait pas la force de quoi que ce soit, il a toujours travaillé pour certainement oublier ce qui s'est passé, et il n'a jamais eu la force, je pense, de quoi que ce soit envers sa famille, si vous voulez. On n'a jamais parlé de rien.
Quand vous avez su pour son père, pour votre grand-père, est-ce que vous lui en avez parlé ?
Ah non, à ma mère uniquement, jamais à mon père.
Ah oui, tiens.
Jamais, parce que mon père me fait peur, parce qu'il a une tristesse et un malaise et dans ses yeux, dans son attitude
qui vous repousse,
qui me dérange, qui me repousse complètement. Mmh. Je n'arrive pas à, je n'ai même, c'est dur de dire ça, mais je ne ressens pas vraiment d'amour pour mon père, alors que j'aurais tellement rêvé d'avoir un père, un vrai père.
Mais là, c'est un homme cassé, d'après ce que j'entends.
Ah oui, complètement, oui.
Et qu'est-ce que votre mère a répondu quand vous avez dit que vous saviez ?
Rien, elle a dit ça ne me regardait pas.
Ah oui, ça n'a même pas ouvert une conversation.
Ah non, pas du tout. Ah. Après, si par la suite, on en a parlé, mais beaucoup trop tard. On a eu tous malaise toute notre enfance, un père malheureux, triste.
Le secret de famille par-dessus.
Voilà. Ouais. Et que le soir, quand il rentrait, il ne nous parlait pas. Il ne s'est jamais occupé de nous, ni des devoirs, ni nous emmener, ni nous faire un cinéma, faire une balade en forêt. Enfin, on n'a jamais, vous voyez, c'est quelque chose que... On n'a jamais rien fait. Et là, moi, je suis maman, j'ai un fils. J'ai eu un fils.
Tiens, c'est intéressant, ça.
Oui.
Ça aussi.
Alors, non, mais c'est... Depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai dit que quand j'aurai un enfant, je ne veux pas de fille. J'ai toujours dit je ne veux pas de fille. J'étais très, très... J'ai eu un enfant tard, à 37 ans. Mm-hmm. Mon seul fils, Diego, qui a 15 ans et demi maintenant. Et j'ai toujours dit, il faut que ce soit un garçon, parce que je crois que je ne pourrais pas aimer si c'est une fille. Et quand j'ai su que c'était un garçon, je n'en revenais pas.
Bon, c'est probablement pas aussi définitif que ça. Vous auriez une fille, vous l'auriez aimée, vous auriez fait un travail différent pour l'approcher.
Ça aurait déclenché autre chose. Mais sur le moment,
oui, je comprends.
Parce qu'avec ce qu'on a vécu, peur, je me suis dit, voilà, la pauvre, je pourrais peut-être...
Elle va en hériter encore, quoi, oui.
Voilà, mais bon, évidemment, maintenant, avec le recul, vous voyez, j'ai trois nièces. Par contre, une de mes sœurs a eu trois filles.
Mais oui.
Et mes nièces, je les adore, voilà.
C'est pour ça que je vous dis que c'était un peu catégorique, mais c'est normal, c'est la peur qui parlait à ce moment-là.
C'est exactement. Donc j'ai eu mon fils. Et donc figurez-vous que mon père a 7 petits-enfants et mon père ne partage absolument rien. Il reproduit la même chose sur ses petits-enfants.
Même avec votre fils, lui qui voulait un garçon.
De quoi ?
Avec votre fils, il n'est pas plus proche.
Pas du tout. Oh non, absolument pas. Ni avec son autre petit-fils qui a 19 ans.
Donc même les garçons, absolument, vous voyez, finalement, c'est pas une question de fille ou garçon. Oui. Hein. Donc c'est juste qu'il n'est pas capable de dépasser cette...
C'est ça, exactement. Il n'est pas capable de donner d'amour, il n'est pas capable, puisqu'il n'en lui en a pas donné, puisqu'il a été coupé de son père, puisque sa mère a été vraiment pas du tout sympa. Et voilà, il n'a jamais pu en parler à personne.
Il s'est bloqué, ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'il s'est bloqué, finalement.
Voilà,
il est resté coincé au moment où tout ça s'est produit et depuis, il n'a pas réussi à avancer.
Exactement. Et il vit toujours dans un monde d'il y a 60 ans.
Ça va terrible pour lui en même temps.
Oh, très dur. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai 10 fois, ça fait 30 ans que je dis à ma mère qu'il est malade, qu'il est dépressif,
ah oui,
qu'il doit être soigné. Jamais on a écouté ma parole. Jamais. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux ?
Votre mère n'est pas là d'être quelqu'un qui est dans l'empathie, en tout cas.
Non.
C'est pas le genre.
Non, du tout. Voilà, donc en fait, elle a beaucoup protégé mon père, qui nous fait du mal, qui nous a fait beaucoup de mal. Et je ne comprends pas comment une mère a préfère toujours maintenant encore prendre la défense de son mari, alors que ses filles souffrent énormément. J'ai toujours dit, mais pourquoi tu es restée avec lui ? Pourquoi tu te comportes comme ça ? Pourquoi vous êtes encore ensemble ? Vous rendez compte des enfants qui disent à ses parents, séparez-vous.
Alors que ça devrait pas être le rôle, ça. C'est qu'elle y a trouvé aussi un intérêt. Vous savez, dans des couples aussi dysfonctionnels soient-ils, il y a toujours un intérêt pour l'un et pour l'autre.
Oui,
sinon, ils ne resteraient pas ensemble.
Et ils sont toujours ensemble. Et moi, ça me fait du mal parce que ma mère a choisi le côté de mon père, qui fait souffrir d'ailleurs. Moi, je ne le vois jamais quasiment une fois par an.
Oui, c'est
quand je le vois, c'est de la queue de la douleur en fait. Et donc ça me rend méchante. Ça me rend, quand je le vois, j'ai envie de tout casser.
Vous n'arrivez pas à tourner la page sur ce plan-là ? Parce que là, je crains que les choses ne changent plus là.
Ah non, il n'y aurait plus rien à faire. Bien sûr que je tourne la page parce que je ne les fréquente plus. Le fait de les fréquenter, voilà, je fuis le mal. C'est dommage, ce sont quand même mes parents. Je me dis, on n'a qu'une vie. Et j'ai eu beau m'expliquer des centaines de fois avec ma mère. Mon père aussi est au courant. Pourquoi on ne se parle pas? Mais voilà, et ça me rend... Donc je veux fuir ces personnes parce que j'ai l'impression d'être seule, de ne pas avoir de famille.
Et vos vraiment... sœurs?
Ben donc mes sœurs, c'est pareil, elles vivent la même situation de leur côté. Et nous, on ne se voit pas non plus.
Vous avez parlé de vos nièces que vous aimiez beaucoup?
Oui, alors mes nièces, c'est marrant parce que j'ai un rapport avec mes nièces. Heureusement qu'il y a le téléphone, les visios. Mes deux nièces, et on est très 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 proches, alors que je ne parle pas à leur mère.
Ah oui, d'accord, c'est particulier aussi ça.
Ouais, c'est vraiment, voilà. Bon, par contre, maintenant, c'est vrai que j'ai fait un travail énorme sur moi. Je le dis, j'ai tourné la page, on va dire. Mais ça me rend vraiment triste parce que je ne vois plus non plus mes sœurs, parce que une de mes sœurs a hérité du côté très autoritaire de ma mère, avec des principes, des choses. Mon autre petite sœur, moi, elle est partie très jeune de la maison, elle s'est mariée très jeune.
Sauf qu'il peut.
Pour fuir aussi, pour fuir aussi tout ça. Et moi, je me suis retrouvée la rebelle de la famille. J'ai toujours dit tout fort ce que je pensais, tout fort ce que je ressentais. J'ai pleuré, j'ai tout. Et en fait, il n'y a jamais eu de pacte fait de mes parents. Et donc, c'est malheureux, quoi. Parce qu'ils vont quitter cette terre et j'aurais l'impression d'être passée vraiment à côté.
Alors, est-ce que votre fils connaît votre histoire? Est-ce qu'avec lui, vous avez pu parler, justement, arrêter ces non-dits?
Ah oui.
Oui.
Alors, oui, complètement. C'est-à-dire que moi, je suis tout le contraire. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Avec mon fils, on n'a pas de tabou. Mmh. On parle de tout.
C'est formidable, ça.
Ouais, ah oui, on a une relation, d'ailleurs, que mes parents et ma mère jalousent énormément. Je suis extrêmement critiquée sur mon rôle de mère, même encore maintenant. C'est pour ça que je les fuis. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très... Alors, une maman complètement sans... Alors, tout le contraire, sans règles, très cool, très à l'écoute. À dire je t'aime 15 fois par jour, mon fils aussi.
Ah, c'est
à s'appeler tout le temps. On a cassé tout ça et mon fils est au courant de tout.
Non, ça, c'est vraiment très important, c'est bien. Vous avez réussi ce qu'ils ont raté
Exactement. Et ça, le problème se pose parce que ma mère ne supporte pas la relation que j'ai avec mon fils. C'est quand même dingue.
Oui, c'est vrai que ça... Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, malheureusement, je crois que ça ne changera pas. Ce qui est dommage, c'est que vous n'arriviez pas à casser, j'allais dire, cette malédiction avec vos sœurs, que vous n'ayez pas réussi à ne pas reproduire cette haine et ces non-dits et ces fâcheries. C'est dommage, quand même.
Et c'est dommage.
Il faut attendre la génération d'après, vous voyez, votre fils et vos nièces, pour que ça se calme.
C'est ça. Alors qu'avec mes nièces ne comprennent pas non plus pourquoi on ne me parle pas, pourquoi je suis le vilain petit canard. Elles commencent à se renvoyer. Maintenant, elles ont 15 ans, 16 ans. Elles commencent à voir clair, elles aussi, puisqu'elles ne supportent pas leur grand-père. Elles ne veulent pas le voir non plus. Vous voyez, toute la famille le rejette. Et en fait, la porte du malheur, la porte de la malaisance, et ma mère, ça ne la dérange pas. Donc, tout le monde est parti, si vous voulez. Tout le monde est parti.
Oui, mais malheureusement, ça n'a pas resserré les liens entre les trois sœurs.
Non, ah non, pas du tout.
C'est ça qui est vraiment, vraiment dommage, je trouve.
Voilà. Je ne sais pas, c'est pas que je ne sais plus quoi faire, mais on s'appelle de temps en temps avec une de mes sœurs, mais ça reste très... voilà, très...
Superficiel.
Après 20 ans, ouais. Voilà, très comment ça va, qu'est-ce que tu fais, puis ça s'arrête là. On ne peut pas parler de problème. C'est... Ça fait mal à mes sœurs.
Elles aussi, on dirait qu'elles sont bloquées dans une souffrance dont elles ne sortent pas.
Oui, ouais. Voilà. Il n'y a que moi qui arrive à exprimer ce que je ressens. Que, voilà, que ce n'est pas grave. Il est malade, il est dépressif. Il est odieux aussi, mon père. Il est très odieux aussi. Il peut être odieux parfois. C'est déjà... Plusieurs fois dit qu'il allait se suicider lui aussi. Enfin,
quand on vit dans une telle souffrance, dans un tel enfermement, il y a de quoi être...
Ah mais oui, d'ailleurs je me demande comment il est encore en vie, avec toute cette souffrance qu'il a.
Il aurait pu reproduire effectivement ce geste. Ouais.
Exactement, donc en fait, voilà, moi je voulais savoir si... Enfin, j'ai pas le choix que de m'éloigner de ma famille, enfin surtout de mes parents, parce que ça me fait souffrir et que eux ne font rien. Moi, je pense avoir fait beaucoup, 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 qu'en fait, il n'y a rien en retour, quoi. Pas se sentir protégée, pas se sentir... Et donc, moi, je suis devenue une femme sans homme dans ma vie. J'ai quand même bon vécu avec un peu le père de mon fils, mais on s'est séparés très rapidement. En fait, j'arrive pas à vivre avec un homme.
Il se voit quand même avec son papa ?
Ah oui, complètement. Donc, on s'entend très bien. On habite à côté, hein. On est à 10 km.
Hein. D'accord. Donc ça, c'est... Vous n'avez pas reproduit un conflit familial. Ça, c'est bien aussi.
Ah non, absolument pas. C'était hors de question. Hein. Même d'ailleurs, pour mon fils, je l'ai laissé vivre chez son père pendant 2 ans, à l'âge de 12 ans. J'ai pas créé de conflit. C'est moi qui... J'ai quitté Paris pour venir me rapprocher du père de mon fils. J'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné ma vie à Paris pour venir vivre. Donc j'habite à côté de Deauville. Pour venir vivre là où le père de mon fils était, pour que mon fils était en manque de son père. Et donc je voulais pas reproduire. Donc moi, je suis venue et...
C'est formidable ça.
Ouais, pour que mon fils voit son père tous les jours.
J'espère qu'il sait à quel point vous l'aimez, votre fils.
Hein. Oui, je pense.
Il le sait, oui.
Je pense que oui, et pour qu'il y pleurait, parce que je veux voir papa, c'est trop long. Et je sentais aussi que mon ex était malheureux de ne pas voir son fils. Et donc, pour casser tout ça, j'ai dit, mais pourquoi ce serait plus une mère qui aurait le droit d'avoir plus son fils qu'un père ? Et en fait, pour le bonheur de mon fils, j'ai tout quitté pour qu'il puisse voir son père au quotidien.
Vous êtes incroyable, Estelle, parce que finalement, vous êtes la seule qui a réussi à sortir de tous ces schémas, de tous ces cadres, de toute cette noirceur.
Hein. Oui, mais à quel prix ?
Oui, j'entends. Mais en même temps, quelle belle victoire, je trouve. Hein. Et quelle belle réussite, votre fils. C'est presque un... Enfin, c'est pas presque, c'est votre plus belle réussite.
Ah oui, oui, oui.
C'est votre réponse à tout ça, finalement, vous voyez, à toute cette haine, à toute cette
noirceur. Je montre à mes parents, à mes sœurs, que voilà, vous voulez pas m'entendre, voilà ce que je fais avec mon fils. Et que ça vous plaise ou non, voilà où il en est, mon fils. Parce qu'en fait, c'est un enfant extraordinaire, en fait.
Et j'ai l'impression qu'il doit être chouette, ce garçon-là, oui.
C'est comme mon frère, mon copain, mon fils, évidemment, mais on se parle de tout. On se repose l'un sur l'autre. Lui, dès qu'il a un problème, il m'appelle. Il me raconte tout. C'est incroyable.
C'est bien qu'il y ait aussi le lien avec le père. Comme ça, ça garde aussi un équilibre intéressant.
Ah oui, et le père, on s'appelle beaucoup, on se voit aussi beaucoup, parce que mon fils est en sport-études polo, il va être joueur de polo. Et donc, il sera son métier puisque c'est beaucoup de tournois. Mmh. Et donc, on est liés par rapport à ça. Donc, avec le père, on se voit tout le temps, 3 à 4 fois par semaine.
Ouais, c'est ça, vous avez vraiment réussi l'exact contraire de vos parents, c'est-à-dire l'harmonie.
Exactement.
L'harmonie et l'amour.
Voilà.
Quel que soit ce qui se passe, finalement, quelles que soient les ruptures, quelles que soient les expériences.
Voilà, mais ça me rend triste, cette haine qu'il y a de l'autre côté, et comme je ne peux plus supporter ça.
Bah, c'est là que je vous rejoins, je pense que vous avez raison, le seul moyen de se protéger de la haine, c'est la distance.
C'est ça.
Il arrive un moment où on ne peut pas changer les gens.
Oui, exact. Ça, j'ai très bien compris depuis longtemps.
Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a tellement de gens qui se cassent la tête contre les murs à vouloir changer leurs parents et à ne pas comprendre que ça ne fonctionne pas.
C'est ça. Et que je me dis, bon, OK, ce sont mes parents. Je n'ai pas eu les parents de ce côté. C'est pour ça que moi, je suis la mère que j'aurais voulu avoir. Et en fait, je suis avec mon fils, la mère, et la preuve, puisque comme j'étais soi-disant une maman, je n'avais pas de règles, je n'avais pas de principes. Oui, mais ton fils, il ne faut pas que ce soit comme ci, il ne faut pas que ce soit comme ça. Et pourquoi il se coupe à 8-20 heures, il n'est pas couché. À 21 heures, il n'est pas couché. Et pourquoi si... Foutez-moi la paix, mais laissez-moi élever mon enfant comme j'en ai envie.
Bah quand on voit leur exemple, surtout, il y a de quoi rigoler. Quoi.
Exactement. Et c'est quand même mon enfant, le seul des 7 petits-enfants qui, enfin, on va dire pas ça, mais qui est extrêmement équilibré.
Oui.
Hyper bien dans sa peau. Qui fait un sport qui le passionne. Qui est passionné, qui est joyeux, qui...
Et c'est là où je vous disais, quelle belle revanche. Vous avez réussi là où ils ont tous échoué.
Ouais, ouais. Mais ça me rend quand même quelque part. J'ai quand même une blessure en moi. Et... Pas en moi, mais... Pardon, excusez-moi. Je me dis, quel dommage. On pourrait être une grande famille, réunie. On ne se réunit jamais. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait Noël avec eux. On ne vient jamais me voir. C'est tout le temps moi, parce que mes parents vivent à moitié à la montagne, et mes sœurs aussi. Et à Paris, c'est tout le temps moi qui vais à la montagne. Donc, je vois quand même mes sœurs, mais on se dit bonjour, on ne se parle pas vraiment. je fais toujours l'effort d'y aller, j'emmène mon fils. Et par contre, moi, jamais personne ne vient me voir. Jamais.
Alors, autant du côté des parents, je pense que pour moi, il n'y a plus rien, il n'y a pas grand-chose à en attendre, à part effectivement prendre de la distance et ne pas vous laisser salir par toute cette haine. En revanche, moi, je compterais sur la jeune génération, là, sur les ados, pour renouer peut-être des liens familiaux plus apaisés plus tard avec vos sœurs. Pas forcément tout de suite, mais quelque chose dans le temps qui pourrait s'apaiser. Grâce à eux, justement, peut-être.
À mes nièces, voilà. Parce que c'est vrai que mes nièces, elles sont le lien. J'ai l'impression de retrouver mes sœurs avec mes nièces.
Oui, je comprends, oui. Il y a vos nièces et votre fils qui est à peu près le même âge. Hein, c'est même, même.
C'est ça, exactement. Et on est aussi très liés. Elles me racontent tout, ce qu'elles ne racontent pas à leur mère, par exemple. Vu que moi, je suis la tata très, très cool. Alors que les mamans, elles se ferment les yeux sur ce qui se passe, sur le monde, sur, je sais pas, sur Internet, sur la pilule, sur coucher, sur boire, sur toutes les choses que ma nièce, par exemple, sa mère pense que non, mais pas ma fille, mais pas du tout. Alors que si. Vous voyez, elle se ferme les yeux aussi sur pas mal de choses, quoi. Donc voilà, moi j'essaie d'apporter de l'amour et du bonheur à mes nièces, à mon fils, et puis de vivre, d'être heureuse. Et...
puis je crois que toute l'énergie que vous avez mis à lutter contre vos parents, finalement, il vaut mieux la garder pour vous.
C'est ça.
Et pour peut-être petit à petit reconstruire des petits liens, même s'ils sont petits, mais des liens quand même avec vos sœurs.
Oui. À l'avenir. J'ai compris ça. Ça fait une année, je me sens très très bien soulagée, mais voilà, très triste en même temps de se dire qu'on a des parents et que...
Mais en même temps, là aussi, vous l'avez compris, c'est... ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur bagage, avec ce qu'ils avaient.
Ouais, mais ça, j'ai du mal avec ça, parce que moi, j'aurais pu aussi me comporter comme ça, j'aurais pu aussi, et je ne l'ai pas fait, donc pourquoi eux, ils continuent ce schéma ?
Alors, à leur décharge, la génération précédente... n'allait pas facilement se confier en thérapie, se soigner pour aller mieux. Ouais, on le sait, c'était quand même beaucoup moins facile, beaucoup moins courant. Il y avait aussi une honte à le faire. Les psys, vous savez ce qu'on disait, les psys, c'est pour les fous. Bah, oui, bien sûr.
Mais oui, non, mais c'est ça. C'est pour... Et en plus, sachant que son père s'est donné la mort parce que tout le monde a dit aussi qu'il était fou. Donc, si vous voulez, lui, je pense que mon père a voulu... il a vécu à côté de nous et pas avec nous, en fait. Si vous voulez, on a marché pas mal dans la main, mais côte à côte et sans se regarder. Et...
Mais je crois même qu'il a arrêté de vivre, votre père, complètement.
Ah, complètement.
Il s'est inventé, il s'est mis dans un monde parallèle et il a survécu plutôt qu'autre chose.
Hein. C'est ça. Même encore maintenant, c'est ce que je dis. Il est mort vivant, c'est dur ces mots-là, mais c'est ce qu'on se dit aussi avec mes nièces, avec... Il est là, mais il parle pas, il est allongé dans un canapé, il est comme une plante.
Donc vous avez été, vous, ce qu'on appelle un dégât collatéral de tout ça, mais ça n'est pas votre faute, ça n'est pas contre vous. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il n'était pas capable d'être père, tout simplement.
Oui, mais bon, il y a des choses qu'on ne supporte plus à 52 ans.
Bien évidemment, ça, une fois de plus, ça explique, ça n'excuse pas.
On ne peut plus, moi je ne peux plus mentalement, je ne peux plus qu'on me parle comme si j'avais 12 ans, tais-toi, on n'a pas le droit d'être joyeux, la joie, on ne peut pas, ça me dérange mon père. On ne peut pas rigoler. À table, quand on se retrouve très peu, ben, on ne peut pas parler. Si les petits-enfants parlent, il dit arrêtez de parler. Vous me fatiguez. Enfin, on n'a pas le droit d'exprimer ses opinions. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je ne peux plus à 52 ans.
Non, mais tout est bloqué de ce côté-là. Je le sens bien. Tout est figé, tout est coincé, tout est douloureux. Donc, effectivement.
Moi, je fais tout le contraire. Je dis tout ce que je pense. Et donc, ça fait des conflits. Parce qu'on me traite de hystérique, de... Non, je ne suis pas hystérique, je leur ai dit, je vous dis les choses, vous nous faites du mal, voilà pourquoi, etc. etc. Et
ils ne peuvent pas l'entendre, Estelle, c'est impossible pour eux. Ça voudrait dire une remise en question et ils n'en sont pas capables du tout.
C'est ça, donc je suis tellement épuisée de chercher cette tendresse, cette écoute... que bon, j'ai abandonné.
Je pense qu'ils n'en sont pas capables parce que votre mère est trop fière, je dirais, pour se remettre en question. Et votre père, ça serait trop douloureux pour lui de remuer tout ça. Donc les deux sont barricadés, chacun, elle, dans sa forte personnalité, dans son caractère et dans son
côté. Imaginez, pour nous, se construire, c'est... Moi, toutes mes relations avec les hommes, Maintenant, j'ai peur d'en avoir parce que j'ai peur de me comporter comme ma mère. Je me suis souvent comportée
comme ma mère.
Mais
quand même, vous avez quand même construit un couple, fait un enfant et vous êtes en bonne relation avec le père. C'est énorme déjà,
oui.
Tout ça.
En fait, on n'est pas en couple. Souvent, les gens pensent qu'on est encore en couple.
C'est quand même une belle revanche.
Mais on n'est plus du tout en couple et je l'aime beaucoup. Hein. Je le considère comme un grand frère, comme un soutien, une épaule. On s'appelle presque tous les jours. Et c'est lui mon lien, en fait, ma famille, puisque même mes beaux-parents, j'appelle toujours mes beaux-parents, hein, même si on est séparés depuis 10 ans.
Et vous voyez, vous n'avez pas reproduit le schéma conflictuel.
Non.
Vous avez réussi à en sortir, donc ça, c'est une belle victoire.
Voilà.
C'est une très belle victoire.
C'était pour parler un petit peu de ça et de dire que, ouais, il faut arrêter de se torturer, quoi, en fait, et d'avancer pour soi et son fils, hein, ses enfants. Et pas se comporter comme des parents. Moi, je supporte plus l'autorité, je supporte plus tout ça. J'ai jamais supporté d'ailleurs.
Bah, c'est un peu normal quand on entend votre histoire.
Donc voilà.
Mais je fermerai pas la porte complètement une fois encore à vos sœurs.
Mais oui, mes sœurs, oui, je sais bien. Ouais.
Je pense que les petits, les grands petits là qui arrivent derrière, ils vont remettre de l'harmonie dans tout ça.
Avec le temps. C'est vrai que ma nièce, elle est venue l'année dernière. Chez moi, c'était la première fois, oui. Par exemple, ma sœur, j'ai jamais eu mes neveux et mes nièces en vacances. On m'a jamais confié les enfants. Alors que je suis moi-même maman, vous voyez, parce que mes sœurs ne me faisaient pas confiance, parce que...
Et ça, il serait peut-être temps de ranger ça aussi dans le placard du passé.
Mmh, ouais.
Et vous laisser la possibilité de construire un autre avenir avec elles. Vous allez voir, cette génération-là, ils vont grandir, dans quelques années, ils vont devenir parents, ils vont avoir des petits.
C'est ça.
Et ça serait peut-être l'occasion autour des bébés de se retrouver, vous voyez.
Ah oui, je pense
de
que
les avec mes
sœurs, c'est
ça.
Pas...
Ouais, c'est pas définitif.
On s'est toujours dit, même avec une de mes sœurs, quand notre père sera mort, c'est dingue, hein, mais quand notre père sera mort, je pense qu'on sera délivrés.
Ouais, c'est fou d'en arriver là, mais je comprends.
Non, mais
je comprends.
Voilà. Même moi, je m'écoute parler, je me dis, non mais, heureusement que c'est anonyme et qu'on se voit pas.
Non mais il y a eu tellement de souffrance qu'on peut le comprendre.
Non mais me dire, moi aussi, je vous rendez compte, de se dire, quand mon père sera plus là, on sera libérés, on pourra enfin se réconcilier. C'est dingue, mais j'aurais quel âge ?
Ça vous... mais en même temps, votre mère, il se passera quoi avec elle à ce moment-là ?
Ah ben c'est ça.
C'est pas
ma mère,
si simple.
Je lui dis combien de fois ? Je lui dis je lui dis quand il sera parti, tu vas revenir vers nous, c'est ça ?
Ça sera un peu tard, je le crains.
Eh mais oui. Donc je sais pas. Ça... Après, ce sera son problème, vous voyez. Ce sera pas mon problème.
Voilà une saine réaction, je trouve.
Elle fera ce qu'elle voudra. Elle a eu même un rapport avec sa mère, elles ne sont jamais entendues. Elle a été soulagée quand sa mère est décédée. Alors moi, j'aimais beaucoup ma grand-mère, c'est marrant. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai réussi à tourner la page. Mais cette souffrance, ça me fait mal pour mon père, en fait. Vraiment, ça me fait mal pour lui de le voir dans cet état. Et toute ma vie, j'ai voulu me battre.
Je comprends, mais en même temps, chacun est responsable de son bonheur.
Ouais.
On ne peut pas réparer les autres contre leur gré.
Ouais, mais franchement, je ne comprends pas. Moi, en tant que maman, comment on peut passer à côté de ses enfants ?
Quand on est bloqué dans ses souffrances, on n'arrive même plus à s'en rendre compte. En tout cas, vous en êtes sortie, Estelle, et vraiment, bravo.
Voilà.
Je trouve que vous êtes une sacrée bonne femme.
Bah écoutez, oui, je ne sais pas, mais...
Et vous avez un chouette petit bonhomme à la maison, je pense.
Ah ouais, ça c'est vraiment mon rayon de soleil, il m'apporte de la force, des réflexions, et puis on s'entend, ouais, c'est vrai qu'on s'entend très bien, et on fait plein de choses ensemble.
Profitez-en bien et allez vers le positif maintenant,
okay. Hein,
d'accord ?
Je vous remercie pour votre écoute.
Avec grand plaisir, Estelle.
Et bonne soirée, et puis bon anniversaire.
Merci mille fois, je vous embrasse.
Merci, au revoir. Merci.
Au revoir, Estelle. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous refermons la page de cette libre antenne. Merci à vous pour vos nombreux messages d'anniversaire. Je suis très touchée. Je vous embrasserai très fort. Je vous retrouve demain soir à partir de minuit. Oui, je sais, il y a encore du foot. C'est la dernière soirée. Ne me demandez pas quel match, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a du foot. On se retrouve à partir de minuit, donc jusqu'à 1h du matin. Et je vous quitte avec la phrase du jour dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. La vie est un si bon prof que si tu n'apprends pas la leçon, elle te la répète. Passez une bonne nuit et à demain minuit.